Alors maintenant, il faut savoir qu'à Médine, il y avait trois grandes tribus juives qui vivaient là lorsque Mahomet y est arrivé. Dans la péninsule arabe, le judaïsme était ancien et il y avait aussi des tribus chrétiennes. Je vous en reparlerai. À Médine, en tout cas, donc, il y avait ces trois grandes tribus juives. Alors au début, toujours d'après la tradition, ces juifs auraient bien accueilli Mahomet. Mahomet, vous comprendrez un peu plus tard, faisait référence à des passages bibliques. Il citait des personnages qui sont dans la Bible aussi. Donc, ça évoquait évidemment quelque chose d'important aux oreilles des juifs. Certains d'entre eux, paraît-il, commençaient à penser que c'était peut-être lui, Mahomet, qui était le Messie qu'ils attendaient. Comme vous savez, les juifs attendent toujours le Messie. J'ai même lu un livre il y a quelques années, écrit par un musulman, sur la période de Médine. Il dit que le grand rabbin de Médine se serait fait musulman, se serait converti à l'islam. Mais voilà, 17 mois exactement après l'arrivée de Mahomet à Médine, il y a une rupture entre lui et les juifs. Parce qu'à un moment donné, les juifs comprennent que Mahomet n'est pas le Messie, et puis ils ne veulent pas se soumettre à son pouvoir temporel. Donc, il refuse sa doctrine et son pouvoir. Alors, cet épisode est tout à fait dramatique. Ça se termine très mal pour les juifs de Médine. Certains sont expulsés de la ville et spoliés de leurs biens immobiliers, terrain, bâtiments, etc. Et puis, le dernier épisode, c'est le massacre de 800 juifs, des hommes, sous les yeux de Mahomet. Alors, la tradition varie. Il y en a qui disent que c'est lui qui a ordonné ce massacre, et d'autres disent qu'il ne l'a pas ordonné lui-même, mais il a laissé faire en y assistant personnellement. En tout cas, 800 hommes sont tués. Et les femmes et les enfants sont répartis en esclaves. Et lui-même, il prend dans son harem, parmi ses femmes, la veuve d'un de ces juifs tués à ce moment-là. Vous voyez, c'est un épisode qui me fait dire, maintenant c'est une remarque tout à fait personnelle, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais quand même, je crois qu'il y a un fondement. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a ce conflit israélo-arabe qui perdure. Et je pense que la haine qui habite les cœurs de certains dans les deux communautés, pas de tous bien sûr, mais de certains, je pense qu'elle est nourrie par cette mémoire collective, cette inimitié, cette haine qui a pu naître à ce moment-là. C'est quand même un épisode terrible pour les juifs. Donc les juifs, en général, n'ont pas confiance dans les musulmans. Voilà, alors, tout ça, vous pouvez le trouver, si ça vous intéresse, dans la sourate 3, versets 9 à 17. Il y a l'évocation de ces épisodes. Et aussi dans la sourate 33, versets 26 et 27. Alors, ce qu'il y a de significatif, c'est qu'à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de la rupture, Dieu ordonne le changement d'orientation pour la prière. Jusque-là, les musulmans priaient en se tournant vers Jérusalem, comme les juifs. À partir du moment où il y a cette séparation, eh bien, Dieu ordonne que la prière soit récitée en direction de la Mecque. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Les musulmans font leur prière tournée vers la Mecque. Alors, nous sommes là en 630 maintenant, 2 ans avant la mort de Mahomet, et justement, la Mecque fait l'objet d'une reconquête. Mahomet rentre à la Mecque, mais il a réussi à s'imposer à la Mecque, non pas par les armes cette fois-ci, mais par la ruse et la diplomatie. Les Mécois se rendent compte que le rapport de force ne leur est pas favorable, et donc ils acceptent finalement de se soumettre à l'islam. Nous sommes en 630 là. Mahomet rentre à la Mecque. Il détruit les divinités qui se trouvent dans la Kaaba. Alors, il y a une tradition qui dit que dans la Kaaba, il y aurait eu une image représentant la Vierge Marie et son enfant Jésus. Et que Mahomet aurait dit préserver cette image. On n'a pas de preuves, évidemment, c'est une tradition qui nous dit ça. Mais en tout cas, toutes les autres sont chassées. Et c'est l'origine de l'interdiction de représenter des visages. Vous savez qu'on n'a pas le droit de représenter des visages. On en parle de temps en temps quand on parle à propos des caricatures de Mahomet, etc. Normalement, on n'a pas le droit de représenter les visages, notamment les visages des personnages les plus importants pour les musulmans. Mahomet, à ce moment-là, instaure les rites du pèlerinage, dont la Kaaba est islamisée. Et la Kaaba est islamisée, et en même temps, son accès devient interdit à tous ceux qui ne sont pas musulmans, les polythéistes, les juifs et les chrétiens. Le Coran justifie cette interdiction par ce qui est mentionné comme leur impureté. Dans la sourate 9, verset 28. Aujourd'hui encore, vous voyez, les pèlerins qui vont à la Mecque en pèlerinage trouvent à un moment donné sur la route un panneau indiquant Haram. Haram, ça veut dire, c'est un territoire, ils entrent dans un territoire qui est interdit aux non-musulmans. C'est leur territoire à eux. Si vous voulez une anecdote récente, j'étais en Turquie là, il n'y a pas longtemps, je suis rentrée le 27, oui c'est ça. Donc j'ai pris l'avion à Istanbul jusqu'à Lyon. Et dans l'aéroport d'Istanbul, j'ai vu un grand groupe de musulmans habillés avec la tenue rituelle. Les musulmans qui font le pèlerinage revêtent une grande robe blanche sans couture. Et tous avec le même tissu, sans aucune garniture. C'est pour montrer l'égalité de tous les musulmans devant Dieu. Et alors je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ces musulmans n'attendent pas d'être sur place à la Mecque pour revêtir cette tenue-là? Alors à mon retour, j'ai demandé à quelqu'un que je connais à Marseille, une femme musulmane. Alors elle m'a donné l'explication. Elle m'a dit, mais ils prennent l'avion. À un moment donné, l'avion va survoler la limite du halal et du haram. Le halal, c'est ce qui est permis normalement, mais je vous en reparlerai. Et le haram, c'est le territoire réservé aux musulmans. Alors, comme les musulmans ne vont pas évidemment changer de tenue dans l'avion, c'est pas très commode, eh bien, ils prennent la précaution de s'habiller de cette manière-là avant de prendre l'avion, vous voyez. Et j'ai vu un groupe identique à Lyon aussi. C'était le départ pour le grand pèlerinage annuel à la Mecque. Voilà, vous voyez. Il y a une obsession de tout ce qui est licite dans l'islam, et on en reparlera aussi. Les musulmans sont vraiment pensent sans arrêt, est-ce que je dois faire ça, est-ce que ça c'est permis ou pas permis, permis ou interdit. Voilà, c'était une anecdote, excusez-moi. Voilà, donc après la reconquête de la Mecque, Mahomet revient à Médine, et c'est là qu'il meurt en 632. Alors, il meurt en 632, mais là, de graves problèmes surviennent parce qu'il n'avait pas prévu sa succession et qu'il n'avait pas d'héritier mâle. Il avait eu un fils, mais qui était mort en bas âge. Alors, que faire ? Les gens qui entouraient Mahomet se sont divisés en deux groupes antagonistes, qui ont mené l'un contre l'autre une lutte farouche. Il y avait le premier groupe se rallier autour du nom de Ali. Ali, c'est un personnage très important. A-L-I. Ali, c'était le cousin germain et le gendre de Mahomet. Il avait épousé sa fille préférée, Fatima. Fatima, c'est un nom très répandu dans le monde musulman. Alors, ses parents de Mahomet se sont regroupés dans un mouvement qu'on appelle aujourd'hui le chiisme. Je vous explique ça pour que vous compreniez ces grandes divisions qu'il y a dans le monde musulman aujourd'hui. Le chiisme, C-H-I-I-S-M-E. Vous avez entendu parler de chiites. Bon. L'autre, c'est les sunnites, je vous dirai après. Alors, le chiisme, ça vient du mot arabe chiia, C-H-I-A, qui veut dire être partisan d'eux. Donc, en l'occurrence, être partisan de Ali, et on en a fait le mot chiisme. Alors, les partisans d'Ali disaient que c'était dans la famille de Mahomet que devait être pris le successeur, qu'on appellera le calife. Le calife, c'est celui qui domine, qui gouverne la société islamique. On peut traduire ça par la lieutenance. Le califat, c'est la lieutenance. Ils disent qu'il est normal que ce soit lui, Ali, qui succède à Mahomet, puisque la famille de Mahomet est une famille bénie, étant donné qu'elle a donné naissance au prophète de Dieu. Mais Ali fait l'objet d'intrigues de la part de Aïcha. Aïcha, la plus jeune femme de Mahomet, qui avait beaucoup d'influence autour de lui, elle détestait Ali. Alors elle intrigue contre Ali, et c'est finalement son père, à elle, père de Aïcha, qui est élu calife. Il s'appelle Abu Bakr. Abu, A-B-O-U, plus loin Bakr, B-A-K-R. Il faut savoir aussi que Abu Bakr est le premier habitant de la Mecque à avoir cru en la prédication de Mahomet. Il avait des fonctions importantes dans la première communauté musulmane, notamment l'organisation de la cité de Médine, l'organisation administrative. Et c'est à lui que Mahomet avait confié la direction du dernier pèlerinage à la Mecque avant sa mort.